Au-delà de la cogestion, repenser la propriété sociale et le partage du pouvoir. Nous reviendrons dans la quatrième partie de ce livre sur la façon dont il est possible d'envisager le développement d'une nouvelle forme de socialisme participatif pour le XXIe siècle en s'appuyant sur les leçons de l'histoire et en combinant notamment des éléments de propriété sociale et de propriété temporaire. À ce stade, je voudrais simplement indiquer que la propriété sociale, c'est-à-dire le partage du pouvoir au sein des entreprises, peut potentiellement prendre bien d'autres formes que la cogestion germanique et nordique, et que cette histoire est loin d'être achevée, comme l'illustrent plusieurs propositions et débats récents. D'une façon générale, l'une des questions centrales est de savoir dans quelle mesure il est possible de dépasser la majorité automatique donnée aux actionnaires associés à la cogestion allemande. Une solution est la proposition de X plus Y de la commission Bullock, mais elle repose sur un rôle considérable accordé à l'État, ce qui peut éventuellement fonctionner dans le cas de très grandes entreprises. Cela revient à donner aux collectivités publiques locales et nationales un rôle d'actionnaire minoritaire, mais peut poser problème dès lors qu'il s'agit d'appliquer un tel système à des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises. De façon générale, une limite importante du système allemand est qu'il ne concerne que les grandes structures, au-delà de 500 salariés, alors que la cogestion nordique a le mérite d'être d'une application plus large, au-delà de 30, 35 ou 50 salariés suivant les cas. Compte tenu du fait qu'une majorité de salariés travaillent dans de petites unités, il est essentiel d'imaginer des dispositifs applicables à tous, d'une façon ou d'une autre. En 2017, 21% des salariés du secteur privé en France travaillaient dans des entreprises de moins de 10 salariés, 40% entre 10 et 250 salariés, 26% entre 250 et 5000 salariés et 13% au-delà de 5000 salariés. Les indépendants, non salariés, représentaient par ailleurs 12% des emplois contre 21% pour les salariés du secteur public, État, collectivités locales et hôpitaux, et 67% des emplois pour les salariés du secteur privé, tous statuts d'entreprise et d'associations confondus. Les répartitions sont comparables dans les autres pays européens. Au-delà de la proposition 2X plus Y, une solution complémentaire consisterait à encourager l'actionnariat salarié, qui, en s'ajoutant à un nombre important de sièges attribués aux administrateurs salariés, indépendamment de toute participation au capital, pourrait permettre de créer les conditions pour des majorités nouvelles à la tête des entreprises. Des projets de loi déposés en 2018 par plusieurs sénateurs démocrates envisagent par exemple d'obliger les entreprises états-uniennes à avoir entre 30% et 40% de sièges pour les représentants élus des salariés au sein des conseils d'administration. L'adoption de telles législations serait révolutionnaire dans le contexte des États-Unis où il n'y a jamais eu de règles de cette nature, mais où il existe en revanche une certaine tradition d'actionnariat salarié, même si la remontée de la concentration de la propriété au cours des dernières décennies a fortement réduit le poids de la classe moyenne patrimoniale. Des politiques fiscales moins favorables aux hauts revenus et patrimoine, et à l'inverse des mesures incitatives en faveur de l'actionnariat salarié, pourraient permettre de renforcer ce dernier. Des propositions comme celles que nous évoquerons plus loin, concernant l'impôt progressif sur la propriété et la dotation universelle en capital, pourrait également contribuer à modifier les majorités et les rapports de force et à égaliser les capacités de participation et d'intervention dans la vie économique. La création de sièges d'administrateurs salariés reste certes relativement hypothétique aux États-Unis, dans un contexte politico-idéologique où les références au succès de la cogestion germanique et nordique, ou plus généralement à quoi que ce soit d'extérieur au pays, ont le plus souvent un impact limité. Il faut toutefois rappeler qu'il existe une tradition anglo-saxonne ancienne, et largement oubliée, de limitation du pouvoir des plus gros actionnaires. Au début du XIXe siècle, les compagnies britanniques et états-uniennes plafonnaient souvent les droits de vote au-delà d'un certain seuil de détention. Les débats britanniques récents ont également suggéré de nouvelles pistes permettant de dépasser les modèles existants de cogestion. Un collectif de juristes a notamment entrepris de publier en 2016 un Labour Law Manifesto, en partie repris dans la plateforme officielle du Parti travailliste. L'objectif et de remettre à plat de larges pans du droit du travail et des entreprises, afin de favoriser une plus grande participation des salariés et une amélioration des conditions de travail et de rémunération, tout autant qu'une plus grande efficacité sociale et économique d'ensemble. Le manifesto propose notamment que les représentants des salariés occupent immédiatement au minimum 2 sièges au sein des conseils d'administration, environ 20% des sièges. Surtout, la proposition la plus originale consiste à faire élire les administrateurs par une assemblée mixte actionnaires-salariés. Autrement dit, tous les salariés seraient considérés comme membres de l'entreprise au même titre que les actionnaires, en tant qu'acteurs de long terme de son développement. Ils disposeraient, en tant que tels, de droits de vote au sein de l'assemblée mixte chargée de désigner les administrateurs. Le texte propose dans un premier temps que les salariés disposent de 20% des droits de vote au sein de cette assemblée, tout en envisageant que ce pourcentage soit graduellement relevé, possiblement jusqu'à 50% ou davantage. Il est par ailleurs proposé d'appliquer ces règles à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, y compris les plus petites, ce qui constituerait une différence essentielle avec l'expérience des autres pays et permettrait de généraliser la participation à tous les salariés. L'intérêt d'un tel système, selon les auteurs, est qu'il contraindrait les administrateurs potentiels à s'adresser à la fois aux salariés et aux actionnaires. Plutôt que de représenter uniquement les intérêts de l'un et l'autre groupe, les administrateurs élus par l'assemblée mixte devraient présenter des stratégies à long terme, s'appuyant sur les aspirations et les informations des deux catégories d'acteurs. Pour peu que les salariés détiennent également une partie des actions, à titre individuel ou au travers d'une structure collective, des dynamiques nouvelles pourraient émerger. Coopérative et autogestion, capital, pouvoir et droit de vote. Mentionnons enfin les réflexions en cours au sujet de la gouvernance des sociétés coopératives, et plus généralement des structures non lucratives telles que les associations et fondations, qui jouent un rôle central dans de nombreux secteurs, notamment l'éducation, la santé, la culture, les universités, les médias. S'agissant des sociétés coopératives, l'une des principales limites à leur développement a été une trop grande rigidité. La forme la plus classique consiste en ce que chaque membre de la coopérative dispose d'un même droit de vote. Cela peut être parfaitement adapté à certains projets, fondés précisément sur une coopération égalitaire et des apports similaires de chacun des membres. De multiples formes d'organisation coopérative ont également montré dans l'histoire leur capacité à gérer des ressources naturelles communes sur une base égalitaire. Mais cela peut conduire à des complications dans de nombreuses autres situations, en particulier en cas de besoin de financement d'un nouvel investissement mettant en jeu des caractéristiques individuelles spécifiques. Cela peut poser des difficultés aussi bien pour des projets de grande taille que pour de toutes petites entreprises. Prenons le cas d'une personne créant un café-restaurant ou une épicerie bio et investissant ses 50 000 euros d'économie dans l'affaire. Supposons que l'entreprise compte 3 salariés, le fondateur et 2 autres salariés qu'il a recrutés pour travailler avec lui, mais qui n'ont pas apporté de capital. Avec une structure coopérative parfaitement égalitaire, les 3 salariés disposeraient chacun d'un droit de vote. Les 2 salariés nouvellement embauchés, qui ont peut-être rejoint l'entreprise une semaine auparavant ou s'apprêtent à la quitter pour mener leur propre projet, peuvent, sur toutes sortes de décisions, mettre en minorité le fondateur, qui a investi dans l'affaire non seulement ses économies, mais peut-être aussi des années de rêves et d'idées qui lui sont chères. Un tel arrangement peut être adapté à certaines situations, mais l'imposer dans tous les cas ne serait ni juste ni efficace. Il existe une grande diversité des aspirations et des cheminements individuels, et les différentes formes possibles de partage du pouvoir doivent s'adapter à cette diversité et non l'étouffer. Je reviendrai dans le prochain chapitre sur cette question cruciale au sujet des sociétés communistes et post-communistes. Plus généralement, pour des projets impliquant davantage de salariés et une structure de capital plus diversifiée, il n'est pas anormal que les personnes ayant apporté davantage de capital disposent de plus de droits de vote, à la condition que les salariés soient également représentés dans les organes de la décision, avec des représentants choisis suivant les règles de la cogestion allemande, ou bien en ayant recours à l'assemblée mixte salariés-actionnaires. Et que tout soit fait par ailleurs pour réduire les inégalités de patrimoine et égaliser les conditions de participation à la vie économique et sociale. On peut aussi plafonner les droits de vote au-delà d'un certain seuil de détention, ou bien avoir plusieurs classes de droits de vote. Par exemple, il a été récemment proposé de créer un statut de société de médias à but non lucratif, dans lequel les droits de vote des plus gros donateurs sont plafonnés, alors que ceux des donateurs moins importants, journalistes, lecteurs, crowdfunders, etc., sont majorés d'autant. En l'occurrence, on pourrait par exemple décider que seul un tiers des apports individuels supérieurs à 10% du capital soit porteur de droits de vote. L'idée est que cela peut avoir du sens de donner plus de voix à un journaliste ou à un lecteur qui apporte 10 000 euros plutôt que 100 euros, mais qu'il faut éviter de donner tous les pouvoirs à un donateur aux poches sans fond qui apporterait la totalité des 10 millions d'euros requis pour sauver le journal. Il s'agirait en quelque sorte d'une forme intermédiaire entre les sociétés par action traditionnelles, fondées sur le principe « une action, une voix », et les fondations, associations et autres structures non lucratives au sein desquelles les donations n'apportent aucun droit de vote, tout du moins pas directement. Initialement pensé pour le secteur des médias, et dans un cadre où les apports financiers prennent la forme de dons non recouvrables, un tel modèle pourrait également être utilisé pour des sociétés coopératives dans d'autres secteurs d'activité et s'appliquer également à des cas où les apports en capitaux peuvent être recouvrés. De façon générale, il n'existe aucune raison de se limiter à une confrontation entre un modèle purement coopératif, une personne, une voix, et un modèle purement actionnarial, une action, une voix. Le point important est que les nouvelles formes mixtes doivent être expérimentées concrètement et à grande échelle. Les débats sur l'autogestion ont souvent suscité de grands espoirs, par exemple en France dans les années 1970, mais ils sont généralement restés à l'état de slogans et n'ont guère débouché faute de s'être matérialisés dans des propositions précises. La promotion de ces nouveaux statuts doit également s'accompagner d'une refonte du régime fiscal des structures non lucratives. Dans la plupart des pays, les avantages fiscaux liés aux dons favorisent de façon disproportionnée les plus aisés, dont les préférences en matière caritative, culturelle, artistique, éducative et parfois politique sont de facto subventionnées par les contribuables moyens et modestes. Nous reviendrons dans la quatrième partie de ce livre sur la façon dont il est possible d'utiliser ces mêmes moyens dans une logique beaucoup plus démocratique et participative, en permettant à chaque citoyen d'abonder d'un même montant les projets non lucratifs de son choix, qui pourraient également concerner d'autres secteurs que ceux envisagés jusqu'ici, par exemple les médias ou le développement durable. Résumons. Au XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'idéologie dominante consistait à sacraliser la propriété privée et les droits des propriétaires. Puis, de 1917 à 1991, les débats sur les formes de propriété ont été surdéterminés par l'opposition bipolaire entre le communisme soviétique et le capitalisme états-unien, ce qui a engendré une certaine glaciation des discours et de la réflexion. Il fallait être pour l'extension indéfinie de la propriété étatique des entreprises ou bien pour la société privée par action comme solution à tous les problèmes. Cela contribue à expliquer pourquoi des voies alternatives, comme la cogestion et l'autogestion, n'ont pas été explorées et approfondies autant qu'elles auraient pu l'être. La chute de l'Union soviétique a commencé par ouvrir une nouvelle période de foi sans limite dans la propriété privée, dont nous ne sommes d'ailleurs pas complètement sortis, mais qui commence néanmoins à montrer de sérieux signes d'épuisement. Ce n'est pas parce que le soviétisme a été un désastre qu'il faut s'arrêter de penser la propriété et son dépassement. Les formes concrètes de la propriété et du pouvoir sont encore et toujours à réinventer. Il est temps de reprendre le cours de cette histoire en repartant notamment des expériences cogestionnaires germaniques et nordiques et en les généralisant et en les étendant à des logiques autogestionnaires viables, participatives et innovantes. La social-démocratie, l'éducation et la fin de l'avance états-unienne. Venons-en maintenant à ce qui est l'un des principaux défis auxquels font face les sociétés social-démocrates en ce début de XXIe siècle, à savoir la question de l'accès aux qualifications, à la formation et en particulier à l'enseignement supérieur. De façon générale, au-delà de la question du régime de propriété, il faut souligner le rôle central de l'éducation dans l'histoire des régimes inégalitaires et l'évolution de la structure des inégalités socio-économiques, aussi bien à l'intérieur des pays qu'au niveau international. Deux points notamment méritent une attention particulière. Tout d'abord, les États-Unis ont bénéficié pendant la majeure partie du XXe siècle d'une avance éducative significative sur l'Europe de l'Ouest et le reste du monde. Cette réalité remontée au début du XIXe siècle et aux origines du pays et explique pour une large part les écarts importants de productivité et de niveau de vie moyen observés pendant l'essentiel du XXe siècle. Cette avance a disparu à la fin du XXe siècle pour laisser la place à une stratification éducative, elle aussi inédite aux États-Unis, avec des écarts d'investissement éducatif considérables entre les classes populaires et moyennes et les personnes accédant aux universités les plus richement dotées. Au-delà du cas états-unien, je vais insister sur le fait que le passage de la révolution primaire et secondaire à la révolution tertiaire constitue un défi inégalitaire auquel aucun pays n'a su répondre de façon pleinement satisfaisante. Ceci explique pour partie le phénomène général de montée des inégalités depuis 1980 et l'épuisement du modèle social-démocrate et de la coalition électorale qui l'avait rendu possible. Commençons avec l'avance états-unienne. Au début des années 1950, la productivité du travail était en Allemagne et en France d'à peine 50% du niveau observé aux États-Unis. Au Royaume-Uni, elle était inférieure à 60% du niveau états-unien. Puis l'Allemagne et la France ont dépassé le Royaume-Uni dans les années 1960 et 1970, avant de rattraper les États-Unis à la fin des années 1980. Les productivités allemandes et françaises se sont ensuite stabilisées approximativement au même niveau que les États-Unis depuis le début des années 1990, alors que la productivité britannique restait à un niveau environ 20% plus bas. Plusieurs remarques doivent être faites au sujet de ces évolutions. Il faut tout d'abord insister sur le fait que les mesures de la productivité du travail indiquées sur les graphiques 11.3 et 11.4, à savoir le produit intérieur brut divisé par le nombre total d'heures travaillées par la population active de chaque pays au cours de l'année en question, sont loin d'être parfaitement satisfaisantes. La notion même de productivité est en soi problématique et mérite des précisions. Le mot semble parfois exprimer une sorte d'injonction à produire sans cesse davantage, ce qui n'a aucun sens si cela a pour conséquence de rendre la planète invivable. C'est pourquoi il est hautement préférable de raisonner non pas en termes de produit intérieur brut, mais en termes de produit intérieur net, c'est-à-dire après déduction de la dépréciation et des dommages causés au capital, y compris au capital naturel, ce qui est très mal intégré dans les comptes nationaux officiels actuellement disponibles. En l'occurrence, cela n'affecte pas les comparaisons entre pays sur lesquels nous nous concentrons ici. Mais cela a un impact essentiel pour l'analyse du régime productif et inégalitaire mondial au XXIe siècle. Ensuite, il est relativement complexe de mesurer de façon parfaitement fiable et comparable le nombre d'heures travaillées dans les différents pays. Il existe certes de multiples enquêtes depuis les années 1960 et 1970 permettant d'estimer les nombres d'heures travaillées par semaine, les congés et ainsi de suite. Mais ces enquêtes sont rarement menées de façon totalement similaire dans le temps et l'espace, et elles sont beaucoup moins nombreuses et complètes pour les périodes antérieures. J'ai repris ici les séries d'heures travaillées rassemblées par les instituts statistiques internationaux. Il s'agit des meilleures estimations dont nous disposons, mais leur précision ne doit pas être exagérée. Le principal fait qu'il faut avoir présent à l'esprit, et qui en l'occurrence est raisonnablement bien documenté, est que le nombre d'heures travaillées par emploi était approximativement le même dans les différents pays ouest-européens et aux États-Unis jusqu'au début des années 1970, entre 1900 et 2000 heures par an et par emploi, puis qu'un écart significatif est apparu à partir des années 1980 et 1990. Au milieu des années 2010, le nombre d'heures travaillées est compris entre 1400 et 1500 heures par an et par emploi en Allemagne et en France, contre près de 1700 heures au Royaume-Uni et 1800 heures aux États-Unis. Ces écarts reflètent à la fois des semaines de travail plus courtes et des congés plus longs en Allemagne et en France. On remarquera que la tendance générale à long terme est celle d'une baisse du temps de travail, y compris au Royaume-Uni et à un degré moindre aux États-Unis, ce qui paraît logique. À mesure que la productivité augmente, il est naturel de travailler moins longtemps et de profiter du niveau de vie supplémentaire pour s'occuper de sa famille, de ses enfants, de ses amis, pour découvrir le monde et les autres, pour se distraire et se cultiver. Il n'est pas interdit de penser que cela constitue le but même du progrès technologique et économique, et que cet objectif général d'amélioration de la qualité de la vie est globalement un peu mieux rempli par les trajectoires observées en Allemagne et en France que dans les pays anglo-saxons. La question du rythme idéal de réduction du temps de travail et des modalités d'organisation est cependant extrêmement complexe, et il n'est pas question de la trancher ici. Le processus de baisse tendancielle du temps de travail est éminemment politique et il met toujours en jeu des conflits sociaux et des évolutions idéologiques propres à chaque pays. Par exemple, la réduction de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures en France de 1997 à 2002 s'est accompagnée d'une flexibilisation accrue des horaires pour les bas salaires, en sus d'un gel prolongé du pouvoir d'achat, et s'est avérée plus avantageuse pour les cadres, qui ont surtout bénéficié de congés supplémentaires. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, la faible réduction du temps de travail au cours des dernières décennies est allée de pair avec un déclin syndical marqué, sans que les pouvoirs politiques et législatifs prennent le relais, et un accroissement particulièrement fort des inégalités salariales. Une analyse des différentes trajectoires nationales de réduction et d'organisation du temps de travail dépasserait de beaucoup le cadre de cette enquête. On notera simplement qu'en l'absence de loi nationale ou de négociation collective concernant l'ensemble des salariés au niveau d'un pays, au moins d'un secteur, il est extrêmement rare d'observer des réductions historiques importantes du temps de travail. Cela peut s'expliquer par les difficultés pratiques pour un salarié de négocier individuellement son temps de travail, et aussi par une tendance à suivre une certaine norme de niveau de vie. On ne souhaite pas être le premier à sacrifier une partie de son pouvoir d'achat, même si, collectivement, on préfère avoir plus de temps libre. La baisse du temps de travail des indépendants à la suite des lois concernant les seuls salariés suggère que ce second facteur a une certaine importance. Les données disponibles pour trancher ces questions sont toutefois imparfaites. En tout état de cause, quoi que l'on puisse penser de la durée du travail hebdomadaire ou du volume de congés payés choisi par les différents pays, le fait important sur lequel je souhaite insister ici est que la productivité moyenne du travail, telle que mesurée par le PIB par heure travaillée, était deux fois plus faible en Allemagne et en France qu'aux États-Unis au début des années 1950, et qu'elle est quasiment identique depuis 1985-1990, alors qu'elle est environ 20% plus faible au Royaume-Uni. Au-delà des limitations des données disponibles, qui peuvent légèrement biaiser les comparaisons dans un sens ou dans l'autre, ces ordres de grandeur méritent d'être retenus. Précisons enfin que la notion de productivité utilisée ici, bien que hautement imparfaite et insatisfaisante, est plus subtile qu'une simple notion de productivité marchande. En particulier, la production du secteur public et du secteur non lucratif est prise en compte dans le produit intérieur brut sur la base des coûts de production, ce qui revient à supposer que les impôts, subventions et dons versés et utilisés pour rémunérer les enseignants ou les médecins assurant ces services correspondent à la valeur que la société leur prête. Cela conduit probablement à sous-estimer légèrement le produit intérieur brut des pays où le secteur public est plus étendu, par comparaison aux pays où ces services sont rendus par des entreprises privées, souvent de façon plus onéreuse. Mais le biais est beaucoup moins fort que si le secteur non marchand était purement et simplement ignoré.